Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est une nouvelle vague migratoire à laquelle est confrontée l'Italie. Officiellement, les chiffres sont à la baisse, en tout cas en provenance de Libye. 166 000 arrivées de migrants depuis le début de l'année, soit 30% de moins que l'année précédente. Mais c'est sans compter les arrivées de bateaux fantômes qui échappent à tout contrôle, des navires de surveillance de Frontex ou des ONG. Ces embarcations viennent des côtes tunisiennes et leurs passagers s'évanouissent dès qu'ils ont touché la terre ferme. C'est ce que nous explique depuis la Sicile, Cécile de Barge.
Les 5 épaves de bois détonnent sur le sable ocre de la plage de Fungi Tedri à Torre Salsa, petite ville du sud de la Sicile. 5 bateaux de pêcheurs couchés sur le flanc, échoués après avoir traversé la Méditerranée. Sur les coques blanches et bleues, des inscriptions en arabe semblent indiquer la rive d'en face comme lieu de départ. À bord, des restes de pain, des couvertures, de gros manteaux, des matelas, des paires de chaussures. Les seules traces qu'il reste des voyageurs qui s'évaporent à peine posé le pied à terre. En quelques jours, la presse italienne évoque de nouveau ces arrivées fantômes, presque tous venus de Tunisie. Ces bateaux passent sous les radars des navires de Triton et des ONG qui patrouillent en Méditerranée. Surtout, leurs occupants, des Tunisiens, préfèrent disparaître en arrivant car ils risquent l'expulsion. La télé italienne a diffusé le témoignage de certains d'entre eux arrêtés par la police et envoyés dans des centres d'accueil de la région. Beaucoup disent chercher une vie meilleure, se disent aussi déçus de la révolution tunisienne. Ils parlent d'une traversée payée environ 1500 euros et de départ depuis Sfax et les îles de Kerkena. Ce sont beaucoup d'hommes assez jeunes. Le premier bateau échoué sur ces côtes de la région d'Agrigente a été signalé au mois de juin dernier par une association locale de protection de l'environnement, Mare Amico. Depuis, le président de cette association, Claudio Lombardo, dit avoir recensé 80 arrivées de bateaux depuis l'été. Des canots pneumatiques de 5 mètres de longueur, à peine avec une dizaine de passagers, jusqu'aux bateaux de pêche en bois contenant une quarantaine ou cinquantaine de passagers, on est loin des chiffres des départs de Libye. Mais le phénomène marque le retour des départs de Tunisie, dont l'intensité avait considérablement décru après les arrivées importantes dans la foulée de la révolution de 2011. Depuis le début de l'année, et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 5755 Tunisiens ont été enregistrés comme nouveaux arrivants en Italie, soit l'une des 10 nationalités les plus représentées parmi les migrants à peine arrivés via la Méditerranée. Un chiffre qui n'inclut qu'une toute petite partie des passagers de ces bateaux fantômes.
Ils enchaînent parfois 48 heures de travail d'affilée pour un salaire de misère, 550 euros. Nous parlons des jeunes médecins spécialistes polonais, des internes qui protestent aujourd'hui contre un système de santé sous-doté, au bord de la rupture. À Varsovie, Maja Szymanowska est allée les rencontrer.
À la fin de la ligne du tramway, on trouve un grand complexe hospitalier dans les quartiers de l'ouest de Varsovie. L'hôpital Banacha est le plus grand hôpital de la ville, ainsi qu'un centre universitaire important. Beaucoup de jeunes internes travaillent ici, comme Maciej Nowak et Martin Radok, tous deux chirurgiens. Tous les deux en décernent sous les yeux et des voix fatiguées. Ils dénoncent leurs conditions de travail.
Notre problème fondamental, c'est le burn-out, c'est-à-dire le trop grand nombre d'heures. Le code du travail polonais prévoit une semaine de 48 heures maximum. Mais la plupart des médecins, et dans notre hôpital, tous les médecins, ont signé la clause appelée opt-out qui permet de travailler plus de 48 heures. Cela pour deux raisons. Il n'y a pas assez de médecins dans notre pays et nos salaires de base sont tellement bas que nous devons faire beaucoup d'heures pour gagner dignement notre vie.
Mathieu Radoch ajoute.
Le salaire d'un interne durant les 2 années de spécialisation s'élève à 2200 zloty, soit 550 euros par mois. La 3e année de spécialisation, il augmente de 25 euros. Pour cette somme, il n'est pas possible de vivre à Varsovie, juste pas possible. Alors j'accumule les permanences. En gros, je ne dors pas pour me payer un appartement à Varsovie, dans lequel je ne suis jamais.
Mon record dans le mois, c'est 10 permanences. Et encore, je ne dois pas changer d'hôpital. Je le fais ici, mais la plupart de mes collègues prennent des permanences dans un autre hôpital et enchaînent le matin à 8 heures dans l'hôpital où ils sont affectés comme internes et travaillent comme cela, eh bien, 48 heures d'affilée.
Ces pratiques ne se font pas uniquement pour des besoins d'argent.
Il y a des hôpitaux où ce manque de personnel est tellement criant que les médecins sont juste obligés de prendre les permanences pour assurer la sécurité des patients qui seraient laissés sans soins. Mais c'est une sécurité illusoire, car le médecin qui travaille la 70e heure est un danger pour les patients.
Au vu des circonstances, les jeunes médecins ont décidé de mener une action de protestation spectaculaire. Une trentaine d'entre eux ont fait une grève de la faim durant presque tout le mois d'octobre et le personnel hospitalier a défilé dans les rues. Réaction du gouvernement, le président du parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński, a accusé les grévistes d'être un instrument de l'opposition pour déstabiliser le gouvernement. Sulikhan Tadan, originaire du Cameroun, est venu étudier la médecine en Pologne. Il a soutenu les grévistes et travaille au quotidien avec Marcin et Maciek.
Les jeunes médecins en Pologne, ils sacrifient beaucoup de temps, de leur passion pour soigner les malades. Et je pense que ça serait naturel, quoi, que l'État soit reconnaissant envers eux, quoi, pour mieux les payer, mieux les donner, augmenter le salaire, le système de formation.
Les jeunes médecins demandent l'augmentation du budget de la santé, qui est actuellement très bas pour une population de 38 millions d'habitants et qui vieillit très vite. Selon eux, l'État devrait consacrer 6,8% de son PIB à la santé, or il n'en consacre que 4,6% actuellement.
La grève de la faim n'a pas eu les effets escomptés, nos postulats n'ont pas été entendus. Nous avons donc décidé de changer de forme de protestation. Nous allons dénoncer la clause d'horaire illimitée à partir du mois de janvier. Nous voulons montrer ainsi au gouvernement et à la société comment nous sommes surexploités et combien il manque de médecins en Pologne.
À voir si cette fois-ci, le gouvernement décidera de prendre en compte le mal-être des jeunes médecins. Si ce n'est pas le cas, ils continueront en masse à quitter le pays pour d'autres destinations plus attrayantes, comme les pays scandinaves. Et le problème du système de santé ne fera que s'aggraver. Actuellement, il y a 2 médecins pour 1000 patients en Pologne, une des moyennes les plus basses d'Europe. Et la moitié des jeunes médecins interrogés se posent la question de l'émigration.
C'était il y a 30 ans, l'attentat d'Enniskillen en Irlande du Nord avait fait 11 morts et des dizaines de blessés. Les familles des victimes n'ont toujours pas tourné la page et pour cause, personne n'a été inculpé pour cette attaque en Irlande. Julien Lagache.
30 ans après, le souffle de l'explosion s'est dissipé, mais la souffrance persiste. Les familles des victimes qui étaient venues se recueillir ce jour-là sur le monument aux morts d'Enniskillen restent partagées entre colère et pardon. John Anderson a perdu ses parents ce funeste dimanche. Elle explique « Vous devez apprendre à vivre avec ça, sinon vous devenez aussi une victime et je refuse d'être une victime de plus ». Le souvenir est lointain, mais pour elle, la colère persiste, sans doute parce que malgré 10 arrestations après l'attentat, jamais personne n'a été inculpé. Même si la police affirme ne pas renoncer à l'enquête et promet encore de suivre toute nouvelle piste qui se présenterait un jour. Sur place, les différentes communautés ont tout fait pour éviter l'embrasement depuis l'attentat, à commencer par le père de Mary Wilson, une jeune infirmière de 19 ans tuée dans l'explosion. Au lendemain de l'attaque, à la télévision, il dit prier pour les poseurs de bombes, une volonté de pardonner qui entraînera la fondation d'une association, l'Esprit d'Enniskillen. Elle travaille depuis à effacer les barrières communautaires et propose notamment aux jeunes de partir visiter des pays où la diversité est respectée. Le prêtre catholique et le pasteur protestant de la ville, dont les églises sont voisines, rappellent également que le vivre ensemble a été mis à rude épreuve en 1987, mais qu'ils ont eux aussi travaillé à rapprocher les gens, tout comme la Fondation Clinton, du nom de l'ancien président américain, soutien du processus de paix nord-irlandais. Elle s'est installée à la place même qu'occupait le bâtiment piégé. Les efforts pour oublier et avancer connaissent toutefois régulièrement des coups d'arrêt et le passé a refait surface le 8 novembre dernier après que les forces de l'ordre ont découvert une bombe artisanale dans la ville d'Oma près du monument aux morts. Une provocation dénoncée unanimement mais qui laisse encore planer le doute sur l'avenir de la paix dans une Irlande du Nord qui panse toujours ses plaies.
I am a goal-orientated person. I am on target and making progress. All of my thoughts and actions actions are consistent with the attainment of my goals.
En pleine négociation sur le Brexit, le gouvernement britannique doit présenter demain son budget. Autant dire qu'il sera examiné à la loupe, alors que les chiffres sur la productivité britannique sont très mauvais. Depuis la crise de 2008, les travailleurs britanniques produisent moins en une semaine que les Allemands ou les Français. Une piètre performance qui, curieusement, sert à baisser les chiffres du chômage. Dans les entreprises, on cherche donc des solutions pour être plus performants, y compris dans des secteurs où la notion de productivité n'est pas évidente. C'est le reportage au Pays de Galles et à Londres de Marie Billon.
Ici, à la crèche Little Inspirations, le terme de productivité n'est pas un gros mot et il s'applique aussi bien pour les employés que pour les enfants.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
On ne mesure pas le nombre de chansons chantées et on ne peut pas non plus quantifier la production des gardes d'enfants. Mais pour Neil Brockley, le directeur, l'exigence de productivité est bien réelle au milieu des cris d'enfants.
It's really important to us that...
Pour nous, il est primordial que la majorité des heures travaillées de nos employés soient passées avec les enfants, à jouer avec eux, à leur apprendre des choses. Nous gardons donc un œil sur les autres tâches qu'ils doivent accomplir, comme écrire à chaque fin de journée un rapport d'activité à envoyer aux parents. Mon rôle est donc de m'assurer que nos infrastructures sont les plus simples et accessibles possibles pour maximiser leur temps avec les petits.
La crèche se trouve près de Pontypridd, dans le sud du Pays de Galles. C'est dans cette région au large pouvoir décentralisé à l'ouest de l'Angleterre, que se trouve l'un des niveaux de productivité les plus bas du Royaume-Uni. La structure étant privée, Little Inspirations doit rester compétitive et offrir aux parents un service de qualité. Neil Brockley a donc récemment investi dans des tablettes pour ses employés, ce que Laura Lewis, qui travaille ici depuis 10 ans, apprécie.
Nous pouvons rester dans la salle avec les enfants tout en cherchant des idées. Ça nous évite de sortir pour aller utiliser un ordinateur dans une autre pièce. On rédige et on envoie les rapports d'activité depuis les tablettes aussi. Là encore, ça nous fait gagner du temps, donc on a plus de disponibilité dans la journée pour les enfants.
Il faut aussi regarder du côté des fournitures, qu'il s'agisse d'informatique ou de nourriture. Nous pourrions toujours choisir l'option la moins chère, mais il ne faut pas oublier les coûts indirects qui seraient potentiellement induits. On peut envoyer un employé faire une course dans le magasin qui propose cet article moins cher, mais c'est oublier le temps que cela prend sur sa présence à la crèche. Alors peut-être faut-il payer l'article un peu plus cher ou se le faire livrer, mais prendre en compte le coût réel et indirect.
Neil touche ici à deux problèmes qui contribuent à expliquer la faible productivité britannique. D'abord, les entreprises n'investissent pas assez. Comparé à la période avant la crise de 2008, elles ne dépensent que 5% de plus. Mais surtout, le principal frein à la performance générale est la disparité géographique. À Londres, la valeur ajoutée par heure travaillée est de plus 32% selon l'Organisme national des statistiques. Au Pays de Galles, elle est de 15% en dessous de la moyenne. Les longues distances, la durée des trajets, dues notamment aux infrastructures de transport, l'accès limité au haut débit, tout cela contribue à la plus faible performance des petites agglomérations ou des campagnes. Mais pour Paul Sweeney du centre de réflexion Center for Cities, ce n'est pas tout.
Il y a deux manières de regarder le problème. D'abord, les avantages des villes face aux campagnes, mais au-delà de ça, on constate de grandes divergences entre les villes du Royaume-Uni. Les agglomérations du Sud-Est, comme Londres, Reading ou Milton Keynes, offrent un accès à de nombreux travailleurs qualifiés et à un large réseau d'entreprises. Les villes du nord de l'Angleterre n'offrent pas ça, mais plutôt des travailleurs non qualifiés et des loyers peu élevés. Or, les travailleurs les plus qualifiés sont plus productifs que les autres, d'où cette carte des investissements et de la productivité.
Et justement, dans le nord de Londres se trouve une PME, Happy Food and Drink. Bobby Patel a monté sa start-up spécialisée dans les aliments et les boissons saines dans des emballages écologiques il y a 4 ans. Il vend partout en Europe et au-delà. L'accès rapide à l'Eurostar et à des aéroports internationaux comme Heathrow est un atout. Ses bureaux sont aussi dans un immeuble où sont abritées des dizaines de petites entreprises comme la sienne. Pour lui, la productivité, c'est s'assurer qu'un nouveau produit arrive sur les étals des supermarchés le plus rapidement possible et sans faux pas.
Au début, on travaillait sans méthodologie, donc beaucoup d'erreurs étaient commises. Quand on développait un nouvel emballage, par exemple, on pensait que tout était bon, mais on ne regardait pas tous les détails qui en feraient un produit optimal. Donc, ce que nous avons fait, c'est intégrer notre méthode de travail à un logiciel. Il nous permet désormais d'avoir une liste qui se déroule et nous cochons les étapes les unes après les autres. La prochaine phase, c'est l'automatisation. Ainsi, chacun reçoit des notifications précisant ce qui marche ou pas, ce qu'il faut ajuster. Ce n'est plus une question d'évaluation personnelle.
Et même si Bobby est toujours en phase d'optimisation de sa productivité, il a déjà vu des résultats, des retours sur ses investissements.
On a économisé jusqu'à 50% de nos dépenses pour les salaires, argent qu'on peut investir dans d'autres emplois pour améliorer encore plus la productivité. Par exemple, on n'avait pas de développeur de nouveaux produits, maintenant oui. Avant ça, nous avions 8 à 10 produits sur le marché. Maintenant, nous en avons entre 16 et 20. Justement, en ce moment, on est en train de changer tous les produits en enlevant tout le sucre. Si on avait voulu faire ça avant d'avoir ce logiciel et ces procédures en place, ça nous aurait pris un an, voire plus. Là, ça nous prendra entre 3 et 4 mois.
Si la productivité stagne, le nombre d'emplois, lui, a beaucoup augmenté au Royaume-Uni ces dernières années. Une conséquence positive d'une basse productivité, mais un atout de court terme uniquement, surtout si le Brexit convainc les entreprises de s'installer dans un nouveau pays plus productif et au sein de l'UE.
La dépouille du parrain des parrains, Toto Riina, décédé la semaine dernière à l'âge de 87 ans, sera transférée aujourd'hui de Parme, où il était détenu en prison, vers Corleone, son village natal en Sicile. Anne Lenier, vous êtes une de nos correspondantes en Italie et il ne faut pas s'attendre à une grande cérémonie digne du parrain. Toto Riina n'aura pas de cérémonie religieuse pour son enterrement.
Oui, c'est une obligation en vertu d'un décret de 2013 signé par l'archevêque d'Arcirea en Sicile qui prive de funérailles religieuses les mafieux non repentis. Comme ses prédécesseurs, Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape François a lancé plusieurs anathèmes contre la mafia, notamment en 2014 lors de sa visite en Calabre où il avait déclaré « les mafieux sont excommuniés ». Mais l'été 2015, on a tout de même assisté dans le quartier romain de San Giovanni Bosco aux funérailles grandioses du boss Vittorio Monica. Un carrosse noir tiré par 6 chevaux a déposé le cercueil devant l'église. Pendant ce temps, un orchestre jouait la musique du parrain et la cérémonie s'est achevée par une pluie de pétales de roses tout autour de l'église. Alors depuis, le Saint-Siège étudie un décret pénal à l'échelle nationale et internationale pour excommunier tous les mafieux et corrompus. En tout cas, pour Toto Riina, seule une prière privée au cimetière de Corleone peut être envisageable.
Et en quoi ce refus de funérailles religieuses est-il une sanction très forte contre les mafieux ?
En fait, les hommes des mafias sont à leur manière très croyants. On observe plusieurs analogies entre rites mafieux d'affiliation et rites religieux, du baptême au parrainage. Et chaque mafia a son protecteur. Ainsi, en Sicile, Cosa Nostra vénère Sainte Annunziata. En Calabre, la Vierge du sanctuaire de la montagne est la protectrice de la 'Ndrangheta. On peut aussi rappeler les images simples, les crucifix et la Bible trouvée dans la bergerie palermitaine où se cachait feu Bernardo Provenzano, arrêté en 2006. Les enquêteurs ont également découvert un billet sur lequel il avait écrit « Un homme d'honneur qui n'a pas la foi n'est pas un homme d'honneur ». Et cette foi en Dieu, eh bien les mafieux aiment la montrer avec ostentation, lors de processions ou de fêtes à caractère religieux, avant tout pour renforcer leur pouvoir d'influence.
Anne, la page de Toto Riina est tournée, mais qu'en est-il de Cosa Nostra ?
Le décès de Toto Riina, ce n'est pas la mort de la mafia sicilienne. La phase dans laquelle entrent les clans rivaux pour la succession du chef suprême est considérée comme très délicate. Plus que jamais, l'État italien ne doit pas faiblir, avertit le magistrat antimafia Nino Di Matteo, un fin connaisseur de l'histoire et de l'évolution de Cosa Nostra.
Merci Anne Lenier, à Rome. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.